Merci Jésus. Voilà. En tout cas, rebonjour. Et les Grecs disent ceci, Christos anesti, elitos anesti, Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Amen. Donc, quand ils se saluent, c'est comme ça qu'ils disent, Christos anesti, Christ est ressuscité. Et on répond, alitos anesti, oui, il est vraiment ressuscité. Et c'est une conviction. Amen. Donc, pour nous, ce n'est pas une religion que nous avons à faire. C'est pour ça, dans toutes les religions, on essaye d'amadouer un peu la mort et on essaye de trouver des solutions pour la mort. Mais la seule fois que la mort a été vaincue, d'ailleurs, toutes les religions existent à cause de la peur de la mort. Si on enlevait la mort, il n'y aura plus de religion sur la terre. Mais la peur de la religion a fait en sorte qu'il y ait toute forme de religion qui existe. Et nous, on n'a pas de religion, on a une relation avec celui qui a vaincu la mort et les séjours des morts. C'est ça qui est, c'est le plus beau jour que de notre vie, parce que nous n'avons plus peur de la mort. Eh bien, cher Jésus, je te remercie, je dis amen à la prière de ton serviteur et j'amène toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose, à ton obéissance. Je lis toutes les puissances des ténèbres, je les rends sans force et sans puissance dans les cœurs, dans les vies autour de ce lieu et dans ce lieu, dans le nom de Jésus. J'interdis ces mensonges, toutes ces influences sataniques, j'interdis à ces mensonges de venir entraver le plan de Dieu. Et merci pour les ministères d'anges que tu déploies en notre faveur. Merci de ce que tu agis au milieu de nous avec liberté et je te bénis. Père, dans le nom de Jésus qui est Seigneur. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire du vieux pharaon. Il y avait un vieux pharaon et ses médecins lui ont dit, écoute, tu vas mourir bientôt. Ah, oh, il était angoissé, terrorisé. Ah, il avait 4 concubines. Alors, il a dit, ah, oh, j'ai pas envie d'être enterré seul. J'aimerais qu'une de mes concubines m'accompagne, disait-il. Alors il est allé voir une de ses concubines. Il a dit, écoute chérie, tu sais combien je t'aime. Tous les cadeaux que j'ai fait de toi, à toi, tout ce que j'ai fait pour toi. Alors s'il te plaît, j'ai peur d'être enterré tout seul. N'aimerais-tu pas être enterré avec moi? Ah, elle lui a dit, écoute, être enterré avec toi, ça, j'aimerais pas. Hein? Et même, je vais te dire une chose. Après toi, moi, je veux me marier et vivre et continuer ma vie. Oh, ça l'a brisé le cœur. Il était en colère, triste. Il a dit quand même, il me reste encore 3 autres concubines. Et il est allé voir la deuxième concubine. La deuxième, il lui a dit, chérie, j'ai peur d'être enterré seul. N'aimerais-tu pas venir être enterré avec moi? Tu lui dis, mais ça va pas, non? Tu rigoles ou quoi? Moi, être enterré avec toi, mais ça va pas, non? Mais cependant, écoute, je t'aime bien. Le jour de ton enterrement, je serai présente. Oh, il était cassé. Il sort, il rencontre la troisième, mais il était un peu tremblant. Il lui dit, chérie, tu sais, mes médecins m'ont dit que je vais mourir et que je vais être enterré. Et j'ai peur d'être enterré tout seul. Ah, la troisième, il lui dit, oh, tu sais, on t'aime, je t'aime très fort. Pourtant, honnêtement, je ne veux pas être enterré avec toi. Mais je te promets une chose, le jour de ton enterrement, je vais inviter tous les copains, tous les amis, tous les gens qui t'ont connu, et on va parler de toi toute la journée, tous les bienfaits que tu as faits, que toutes les bonnes choses que tu as faites, on va raconter ça. Oh, il était malheureux, il n'ose même pas aller voir la quatrième. Et il s'en va, la quatrième, et touche son épaule et lui dit, « Moi, j'ai envie d'être enterré avec toi. » Elle était surpris. C'était la femme la plus délaissée. Il ne s'intéressait pas à elle. Il n'avait jamais pris du temps pour elle. Il ne lui avait jamais acheté ni bijoux, ni habits, ni rien. C'était la plus délaissée. C'était, pour lui, c'était sa première concubine. Ça ne l'intéressait pas. Il pensait qu'elle le détestait à cause des 3 autres qu'il avait prises en charge. Alors, mais il ne pensait même pas. Il lui dit, mais pourquoi tu es intéressé à moi? Elle lui dit, mais quels sont ces 3 autres? Elle lui fait, ah, tu sais, la première, j'ai consacré ma vie pour elle. Je me levais tôt le matin. Le soir, je dormais tard. J'ai fait tout pour elle. Et tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Qu'elle ne veut pas être enterrée avec moi. Mais elle m'a dit, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Fortune. Fortune. Tout le temps qu'on perd pour la fortune. Quelle concubine terrible. Une fois qu'on s'en va, elle va avec un autre. Oh, elle lui dit, et la deuxième, comment elle s'appelle ? Oh, la deuxième, elle s'appelle Plaisir. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir le plaisir ? On se fatigue jour et nuit. Au fond, c'est pour avoir un peu de plaisir. Si tu vas dans un bon restaurant, c'est quoi ? C'est pour faire plaisir. Et pourtant, une fois que ça est rentré dans ta langue, et après, une fois que c'est descendu, c'est fini, n'est-ce pas ? Et pourtant, pour ce plaisir, quel effort on fait ? Elle, elle lui a dit, « Ouf, je serai présent le jour de ton enterrement. » Mais après, moi, ça, tu ne m'intéresses plus, parce que... Hein, moi, alors, et la troisième, comment elle s'appelle ? Il dit, ah, la troisième, elle s'appelle famille et proche. Ouh, tu sais, la famille, c'est sacré. C'est ça ce qu'on dit souvent. La famille, c'est sacré. Mais cette famille sacrée, elle ne va pas être enterrée avec toi, mon ami. Elle lui a dit, oh, le jour de ton enterrement va venir, on va dire de bonnes choses sur toi. Oh, ça m'a brisé le cœur, tu sais. Mais je ne me rappelle plus, comment tu t'appelles toi ? Il lui dit, le pharaon. Ah, il lui dit, moi je suis né avec toi, je m'appelle âme. Je suis ton âme. Moi seul, je vais être enterré avec toi. Tu m'as délaissé, tu n'as jamais pris du temps pour moi. Tu t'es jamais intéressé à moi. Tu n'as jamais réfléchi où est-ce que tu allais passer ton éternité. Tu t'es jamais dit qu'est-ce que c'est après la mort. Et pourtant, la seule qui va venir avec toi, c'est moi. Et bien aimé, en ce jour de résurrection, as-tu pensé à ton âme ? Alors, voyez-vous, c'est une chose importante de réaliser combien nous sommes fragiles. Combien nous sommes frêles. Le sort de l'homme est misérable. Misérable. Mais quelles prétentions on a ? Dans nos cœurs, il y a tellement de prétentions. C'est pour ça, dans Marc chapitre 8, verset 35, il dit « Car que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme ? Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous et vérifier, on va faire un check-up, comme on dit en anglais, si vraiment ta vie avec Dieu est correcte, si ton âme peut rester en paix. Quelle garantie tu as ? Alors, je vais toucher 5 points, on va réfléchir sur ça. Comment je peux vérifier que tout va bien ? J'espère ici, chacun d'entre vous, vous avez une relation avec Dieu, vous avez mis en ordre... Votre âme, elle est un peu bien revêtue, hein, elle a quelques bijoux, mais est-ce que vraiment c'est vrai ? On va vérifier ça, ok ? Donc ce sont des petites vérifications, on va faire un check-up pour, dans ce moment de résurrection. Quels sont les check-ups ? La bonne santé, voyez-vous, spirituelle, ne dépend pas juste parce qu'on a de bonnes choses. Le projet de Dieu et l'intention de Dieu dans nos vies, c'est pas seulement nous aider, nous accompagner pour des bonnes choses ici-bas. D'ailleurs, on a résumé la vie avec Dieu, c'est juste pour avoir des bonnes choses ici-bas. Le problème, quand je pose des questions en disant « Mais pourquoi vous êtes attaché au Seigneur ?» Ils disent « Ah, oh, parce que Dieu me protège, Dieu est avec moi, j'ai plus peur de la mort. » Voyez-vous, c'est toujours autour de ce que, nous pensons. Mais que pense Dieu nous concernant ? Quel projet il a ? La bonne santé, la prospérité, etc., matériel, c'est pas que ça que Dieu veut sur nos vies, même si ces choses s'ajoutent dès qu'on est attaché à lui. Ok ? Un check-up spirituel. À quoi je reconnais la bonne santé spirituelle que j'ai dans ma vie. Donc la première question, c'est spirituellement, est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu as déjà vérifié si spirituellement tu es en bonne santé? Et comment on sait qu'on est en bonne santé? À quoi reconnaître la bonne santé du Seigneur dans nos vies? Domaine spirituel, c'est cette relation avec Dieu, elle est indéfinissable. Parce que chacun d'entre nous, on a une relation différente avec Dieu. On ne peut pas dire, tiens, ma relation, elle doit être comme ça et comme ça. Et d'ailleurs, souvent, on juge les autres parce que nous, nous avons défini qu'est-ce que ça veut dire relation avec Dieu. Et donc, d'après nos définitions, on juge les autres. Et pourtant, la relation avec Dieu est individuelle. Elle n'est pas imitable. Il y a des gens qui prient 2 heures par jour, d'autres 5 heures, d'autres 30 minutes. Eh bien, écoute, on ne va pas le juger avec ça. Parce que chaque personne a une relation personnelle, n'est-ce pas? J'espère que c'est comme ça. Chacun sa définition sur la relation de Dieu. Bien sûr, on aimerait ressembler à quelqu'un. Moi, quand je lis l'histoire comme Catherine Kuhlmann, oh, j'aimerais avoir la relation que cette femme a. N'est-ce pas? On ne dit pas des gens comme ça qui vous ont marqué, qui vous ont impressionné par leur vie spirituelle. On aimerait les imiter. D'ailleurs, Paul, il disait, « Soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. » Mais ce qu'il le disait sur la vie spirituelle, ou de quoi il parlait? Alors, c'est pour ça que j'ai dit, des fois, on dit on aimerait d'être comme telle ou telle personne, mais pourtant, la relation avec Dieu ne s'imite pas. Elle est personnelle. Quelle que soit la forme que je prends, notre piété, notre relation est différente. Alors, comment on vérifie si nous sommes en bonne santé spirituelle? Si notre vie spirituelle est en bonne santé, comment je le sais? Alors, la première chose, c'est très simple. Posons-nous la bonne question. Quels sont les signes des bonnes relations avec Dieu? Donc, on va marquer ça. Et alors, la première chose, c'est quelle orientation de cœur, vers quoi mon intention, mes pensées se tournent, ma préoccupation se tourne, le pourcentage de mon temps dans la journée, à quoi et à qui je pense. Ça détermine ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la journée? C'est quoi qui te préoccupe dans la journée? Voyez-vous, le check-up est simple. C'est à notre portée à tous. Ce qui te prend le temps est ton Dieu. Ta relation avec Dieu, tu la vois donc comme ça en disant, mais est-ce que dans la journée, quel pourcentage du temps je pense à Dieu? Moi, souvent, je passe au Seigneur quelques SMS dans la journée. Merci Jésus. Quand je vois le soleil, je dis merci Jésus. Il fait beau ça aujourd'hui. Ouais, SMS. D'ailleurs, Paul disait une chose étonnante. Il disait, je fais mention de vous auprès du Seigneur. Ça veut dire, juste il dit, enlise, Seigneur, bénis, enlise, bénis Jean, bénis Josette. Seigneur, merci. Je fais des SMS. Et Dieu est touché parce que je suis préoccupé de ce que Dieu fait pour ces personnes. Amen. Donc, quand je parle là, je ne parle pas des émotions, parce que des fois, on a une émotion forte dans la présence de Dieu, on est touché, waouh. C'est pas ça que je vous parle. Dans la journée, quand il n'y a rien, que tu le sens ou que tu ne le sens pas, quelles sont les préoccupations de ton cœur dans la journée? À quoi tu penses? Qu'est-ce qui te prend? Quand tu te réveilles la nuit, à quoi penses-tu en premier? Quelle idée te vient la nuit quand tu te lèves? Moi, ce matin, j'étais levé à 3h et quelques, je dis, bon, je me levais, Seigneur, je dis, Seigneur, demain, je parlais ça, voyez-vous? Qu'est-ce qui te préoccupe quand tu te lèves? Quelle est ma préoccupation ma volonté permanente de rester connecté avec le Seigneur. À un moment, on avait inventé avec un frère, il est auprès du Seigneur maintenant, de prier le Notre Père chaque fois quand on pensait. Il y avait un homme qui s'appelait Smith Wigglesworth. Vous avez déjà entendu parler de Smith Wigglesworth ? Smith Wigglesworth, il a eu plus de 17 résurrections. Cet homme, il avait une telle relation avec Dieu, mais très simple, hein. C'était un gars très bourru. Il avait appris à lire et à écrire à travers de la Bible à l'âge de 55 ans. Il a servi le Seigneur d'une façon étonnante. Cet homme, il disait, un jour on lui a posé la question, combien de fois par jour tu pries? Parce qu'ils étaient impressionnés pour comment Dieu agissait à travers lui. Combien de fois tu pries par jour? Il a dit, je ne prie pas au-delà de 30 minutes, je ne reste pas sans prier au-delà de 30 minutes. Ça veut dire des SMS. Un jour, il était avec un chauffeur, il bavardait, et d'un seul coup, il a crié, il a dit, arrête la voiture, arrête! Et le chauffeur s'est arrêté, il était tremblant, il descend, il lui dit, Seigneur, pardonne-moi, les 30 minutes sont passées, béni sois-tu, que ton nom soit béni, je suis reconnaissant pour ce moment que tu m'as donné. Il rentre, il continue son histoire. L'autre, il était choqué, il a dit, oui, je ne reste pas sans parler avec Dieu 30 minutes, et je ne reste pas, je ne prie pas au-delà de 30 minutes, par voyez-vous, ce n'était pas un moulin de prière. C'est ta relation continuelle qui compte. Cet homme, un jour, sa femme était morte. Lui, il était au service dans une autre région. Oui, je vais vous raconter celui-là. Il était dans une autre région. On lui a dit, ta femme est morte. Oh, il a dit, comment, sans que le Seigneur me le dise, ma femme est morte? Alors, il a couru dans la chambre, il l'a vue, elle était morte. Il l'a secouée, il a dit, mort, séjour des morts, laissez ma femme. Elle s'est réveillée. Ah, mais c'était un homme impressionnant. Elle s'est réveillée, il lui a dit, mes chéris, laisse-moi partir, c'est le maître qui me veut. Oh, si c'est lui, tu peux partir. Ça, c'est Smith Wigglesworth. Un homme comme nous. Ce même Smith Wigglesworth, un jour, un des anciens était mort. Il y avait mille et quelques personnes dans la salle. Tout le monde était triste. Il rentre. Il était un gars un peu costaud, un peu comme moi. Là. Il rentre dans le cercueil. Vous savez, à l'époque, on laissait ouvert le cercueil. Et c'est à la fin qu'on fermait et qu'on faisait ça. Alors, il vient. Il soulève le mort. Les gens se lèvent, ils disent, il n'a aucun respect pour les morts, il est malade cet homme. Tout le monde l'insultait, il dit, taisez-vous race d'incrédules. Il dit, au nom de Jésus, mon ami John, maintenant tu témoignes de ce que Jésus a fait. Le gars s'est réveillé. C'est des vraies histoires que je vous raconte, c'est une histoire, il y a 1950 et quelques. Il avait une relation simple. Amen. C'est à la portée de nous tous. Dieu veut qu'on vive ces choses. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un secret. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe dans la journée? Alors, une autre chose qu'on peut vérifier, notre relation avec Dieu, c'est que, est-ce que j'aime Dieu pour ce qu'il est? Est-ce que j'aime sa personne? Ou bien est-ce que j'aime ce que je reçois de lui? Je suis sûr, vous tous, vous allez me dire, mais non, moi j'aime pour ce qu'il est. Parce que, y compris moi-même, on dirait ça, n'est-ce pas? Mais vous savez comment je vérifie quand vraiment on aime pour ce qu'il est? C'est quand un malheur nous arrive. Un problème nous arrive. La première question qu'on se pose, malheureusement, c'est, pourquoi, Seigneur? Pourquoi ces choses me sont arrivées? C'est ce qui sous-entend tout, avec tout ce que j'ai fait pour toi. C'est ça ta récompense? Est-ce que dans le malheur, tu continues à louer le Seigneur? Ça démontre ta relation. Est-ce que dans ce moment difficile et que tout est tordu et tout va mal, est-ce que tu continues à dire, Seigneur, toute gloire te revient. De toute manière, ce que j'ai est à toi, ce que je suis, Volontairement, je t'ai donné ma vie, et alors ? Amen. Je te fais confiance. C'est comme ça que Dieu vérifie sa relation avec lui. Où est-ce que tu en es quand les problèmes arrivent ? Ou bien est-ce que tu râles ? Est-ce que tu tapes des pieds ? Est-ce que tu boudes ? Tu dis, je ne viens plus à l'église. Si c'est ça, Jésus, hein ? Et tu as oublié qu'un jour, tu avais donné ta vie. Un jour, tu avais dit volontairement, Seigneur, je te donne ma vie, je ne veux rien pour moi. Eh bien alors, où s'est passée cette parole ? C'était juste pour décorer que tu l'as dit ? Ou c'était sincère et profond ? Amen. C'est ta récompense, Seigneur. Alors venons à l'Écriture. Elle ne nous dit pas que nous ne serons pas malades. Elle ne nous dit pas que nous mourrions jamais de maladie. La Bible ne nous dit pas que nous n'aurons pas de deuil, que tout va être rose. Détrompez-vous. La Bible ne dit pas ça. Les gens ont cru que la Bible, c'est un truc magique. Tu donnes ta vie, il s'occupe de toi. Il fait ce qu'il veut parce qu'il devient le patron de ta vie. Amen. Tu lui donnes ce droit. Mais si tu ne lui donnes pas ce droit, tu sais qu'est-ce que tu deviens ? Des personnes qui disent, mais alors pourquoi Dieu ne répond pas comme moi j'ai pensé ? Vérifie. Quel critère de la communion avec Dieu tu as ? Quel est le niveau d'action de grâce malgré les difficultés ? Dans Éphésiens chapitre 5, versets 17 à 20, il dit, rends des grâces à Dieu, dans toutes choses. Waouh! Ça veut dire quand le mal arrive, quand les choses ne sont pas bien, quand les choses se semblent bizarres. Est-ce que tu continues à rendre grâce? Éphésiens chapitre 5, versets 17 à 20. On va le lire parce que c'est intéressant. Éphésiens. Ça va, vous me suivez quand même? Je ne vous ai pas perdu, j'espère. Vous savez, des fois, on veut écouter autre chose, mais je crois que c'est l'essentiel dans ce jour de résurrection, de comprendre le prix qui a été payé. C'est pas juste pour être que Dieu devient ton boy, quoi, et qu'il pourvoie tes besoins, qu'il soit derrière toi, qu'il pourvoie comme toi tu le penses. Eh bien non, c'est pas le but. Éphésiens 5, versets 17 à 20. 17, voilà ce qu'il nous dit. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses que nous, notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres. Car au verset 16, il dit, rachetez le temps, donc prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Nous, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez le temps, car le temps sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, nous dit ce passage. Donc, dans Philippiens, il nous dit, rendez grâce en toutes choses, et faites connaître vos besoins avec action de grâce, quoi qu'il arrive. Amen. Ma relation avec Dieu se mesure au niveau de mon action de grâce. C'est comme ça que Dieu vérifie. Tu passes par des moments difficiles, est-ce que tu continues à dire « Gloire à lui, ma vie je lui ai donnée ». Amen. Quand les relations avec Dieu se traduisent par la louange, c'est un bon signe. Dieu reste souverain dans ta vie. Ça, c'est le premier point que tu dois vérifier. Deuxième chose que nous vérifions, nos fragilités, nos failles. Vous savez, Jacques chapitre 3, verset 2, nous dit ceci, « Nous branchons tous de plusieurs manières. » En fait, Jacques parlait de lui-même en disant, « Je branche par ma langue. » Moi, j'admire des gens qui reconnaissent ce qui ne va pas en eux. Quand tu ne reconnais plus ce qui ne va pas en toi, ça devient grave. Parce que ces gens, ils prétendent être parfaits. Dieu ne cherche pas la perfection. Il cherche en toi, tu sais quoi ? La vérité. Est-ce que tu es vrai avec toi-même? Tous, on a des failles. Tous, on a des manquements. Jacques parlait qu'il avait des problèmes de parole. Jacques admet qu'il bronche de quelque chose et qu'il parlait mal, certainement. Alors, il dit, « Oh, cette langue-là, mais qu'est-ce que je peux faire avec ?» Je ne sais pas à quoi tu branches. Est-ce que tu as des pensées impures? Est-ce que des colères te prennent le dessus? Est-ce que le mensonge est toujours ça dans ta bouche? Comment ça se passe? De quoi? Quelle est ta faille? Dieu le sait, mais il est heureux quand toi tu le reconnais. Tu ne lui apprends rien. Il sait ta faille. Il connaît les failles que nous avons. Amen. Ta fragilité. La vie chrétienne, ce n'est pas vivre un niveau de perfection morale et spirituelle qui nous rend au-dessus de toute faiblesse et fatigue et fragilité. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est affronter ses faiblesses et ses fragilités dans la foi, dans la repentance et dans l'humilité. C'est ça la vie chrétienne. Reconnaître. Bon, je ne sais pas tout. Hier soir, on parlait avec Jean et Marie-André. Ils m'ont dit, tu sais, ce domaine, c'est pas comme ça. J'ai dit, d'accord, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as fait grâce. Voyez-vous, on parle. Parce que je ne sais pas tout. Qui sait tout? Il faut être fier de connaître ta faiblesse, ta faille et toute ta fragilité dans ta vie. La bonne santé, voyez-vous, c'est pas l'absence de virus, hein. Les gens, ils pensent que la bonne santé spirituelle, c'est pas la caparisie, c'est pas simplement être sans péché. Vous savez, c'est quoi la bonne santé? C'est pas l'absence de virus, comme je disais. La bonne santé, c'est la capacité de résister aux virus et aux microbes. Vous pouvez pas effacer les virus et les microbes, mais tu résistes et tu restes en bonne santé. C'est ça la bonne santé. Donc la bonne santé spirituelle n'est pas l'absence du péché. Le péché, que vous le vouliez ou pas, demeure en nous. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. La faiblesse demeure en nous. On vieillit. Un jour, un homme, hier, je crois, j'ai raconté cette histoire. Il y avait un homme, il était jeune, là, il marchait, et l'ange de la mort, bam, est venu. Oh, il a eu les sueurs. Il commençait à trembler, en disant, oh là là. Et là, l'ange de la mort lui dit, mais pourquoi tu as peur? Moi, je ne viens jamais sans avertir. Je viens toujours en avertissant. Mais n'aie pas peur, il fait. Ah, merci. Donc tu viens en m'avertissant. Ouais, mais je viens jamais sans avertir, moi. Je viens toujours en avertissant. Voilà. Il était content. Le gars, il est parti chez lui. Il a oublié cette histoire. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Il a eu des petits-enfants. Il a vieilli. Il était avec son bâton. Il marchait sur le chemin. Et voilà, de nouveau, l'ange de la mort, bam, est venu. Oh, il a tremblé, il a eu les sueurs, il lui dit, mais attends, je t'avais dit que je ne venais pas sans avertir. Mais il lui dit, mais tu ne m'as pas averti. Il lui dit, mais que si je t'ai averti. Mais que non. Mais que si je t'ai averti. T'as pas vu ton dos évoûté? T'as pas vu tes cheveux, ils sont plus noirs? T'as pas vu les oreilles, tu n'entends plus? Je t'ai averti. Je t'ai averti. Mes amis, mes bien-aimés, l'absence du virus n'est pas le but, c'est résister au virus qui fait de nous en bonne santé. L'absence du péché ne fera pas que nous soyons en bonne santé. L'Esprit de Dieu nous donne la force de surmonter nos faiblesses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Notre ancienne nature se manifeste souvent, qu'on le veuille ou pas. Constamment par nos pensées négatives, impures, de colère, des tentations, des travers psychologiques. Et la bonne santé n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi psychologique. Des fois, on s'énerve pour rien. Ça ne mérite pas qu'on s'énerve. Mais c'est ton travers, connais-le. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours, je reconnais. Dès que vous reconnaissez, Dieu commence à travailler. Mais tout ce que vous ne reconnaissez pas et que vous râlez en disant « c'est l'autre, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle », eh bien écoute, Dieu, il attend le tournant. Jusqu'à quand ? Amen. Donc reconnais tes travers. Quels sont tes travers ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des pensées impures ? Est-ce que c'est des bavardages ? Est-ce que c'est des mensonges ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est l'emportement ? Est-ce que c'est l'amertume ? Est-ce que c'est le ressentiment ? C'est le non-pardon ? Qu'est-ce qui est ton travers ? Et le diable sait aussi. Souvent, il nous attaque à bon endroit. Là, bam, il nous pique tout le temps au même endroit. Est-ce que c'est le découragement ? Est-ce que c'est l'amertume des gens ou comment les gens nous regardent ? Quel est ton travers ? Amen. Alors, identifions nos fragilités. Nous pouvons produire des victimes sinon. Si on n'identifie pas nos travers et nos fragilités. Vous savez, j'ai remarqué, il y a des gens qui veulent à tout prix être aimés par d'autres. Alors ils vous disent, je suis comme ça moi. Ça veut dire, aimez-moi comme je suis. Mais ça, tu n'as pas le droit d'imposer à quelqu'un ça. Par contre, tu as le devoir d'aimer les autres tels qu'ils sont. Mais toi, imposer à d'autres qu'on t'aime tel que tu es, laisse tomber la neige. Tu ne peux pas imposer ça. Tu dois régler cette fragilité. Parce qu'on fait beaucoup de victimes si on fait comme ça. On peut irriter les gens s'éloignent, on ne comprend pas pourquoi les gens s'éloignent, juste parce que tu n'as jamais voulu régler et mettre en place ce qui ne va pas dans ta vie. Tu mets en place, tu parles au Seigneur, il est fidèle et juste pour répondre à tes besoins. Il est fidèle et juste pour te restaurer, mon ami. C'est le but. Amen. Il est bon, notre Dieu. Amen. Donc, Dieu ne veut pas de ta performance, ça ne l'intéresse pas. Dieu ne s'intéresse pas de ta connaissance, ni de tes talents. Ce qui l'intéresse, vous savez, c'est une seule chose, qui est la vérité dans ton cœur. Ah, j'aime ce texte, le psaume 51, verset 6, qui dit « Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc et permets que la sagesse vienne au-dedans de moi. » Oh, j'aime ce psaume, le psaume 51, verset 6. « Tu veux que la vérité soit le but que nous poursuivions, que nous soyons vrais avec nous-mêmes, que nous connaissions ce qui ne va pas en nous. » Et Dieu se félicite, il va travailler avec toi. Amen. Donc, la bonne nouvelle n'est pas, quel que soit ton âge, tu peux restaurer et tu peux revenir dans ce projet de Dieu. Je suis responsable d'aimer, mais pas exiger que les autres m'aiment. Sonde de moi et connais mon cœur. Amen. Le problème des croyants, nous cherchons la puissance. C'est ça le problème que nous avons. Mais c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Paul disait, c'est dans ma faiblesse, son ombre guérissait les malades. Smith Wigglesworth n'avait pas honte, il faisait tellement de fautes d'orthographe. Un jour, un directeur d'une boîte lui a dit, tu sais combien de fautes tu as fait dans la lettre que tu m'as écrite ? Il lui dit, tu sais combien de fois tu as écrit le mot aimer ou le mot foi de différentes sortes ? Oh, il était là, il lui a dit, vous avez quand même compris le message. Oh, j'aime Smith Wigglesworth. Vous avez quand même compris le message. Voyez-vous ? Il connaissait sa faille, mais il s'en fichait. Le plus important, c'est que le roi soit glorifié en tout. Oui. La puissance vient dans ta faiblesse. Paul ne cherche pas la puissance, mais il se manifeste parce qu'il était dans sa faiblesse. Donc, n'essayez pas de jouer des rôles. Enlevez vos masques, là, d'être Superman, Superwoman. Ça n'existe pas. Alléluia. troisième domaine que je vérifie si je suis en bonne santé. Spirituel, fragilité et aussi relation. Troisième, c'est la relation. Comment je vérifie si ma relation est bonne? Les uns avec les autres. Comme je peux savoir que je suis en bonne relation avec les autres. Dans Hébreux chapitre 12, verset 15. J'aime ce texte de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 15. Voilà ce qu'il nous dit. Vous savez, la pédagogie de Dieu, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est impressionnante. 12, verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Voyez-vous le conseil de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit après. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Waouh! En fait, quand tu pardonnes, Jésus te dit une chose. Ne te prive pas de la grâce en gardant l'amertume. Il ne te dit pas il faut pardonner. Tu es un pécheur. Il ne dit pas ça. Ne te prive pas de la grâce. Un cadeau immérité en ta faveur est là. Ne te prive pas de cette grâce, je t'en prie. Je t'en prie. La pédagogie de Dieu. Mais comment je vérifie que j'ai la racine? D'ailleurs, ce texte parle de la racine. Voyez-vous, des fois on dit, quand je pose les questions aux gens, est-ce que vous avez pardonné tout le monde? Ils disent, oui, j'ai pardonné. C'est fait, c'est réglé. On va vérifier. Tiens, ça c'est une bonne idée, ça. On va vérifier. Vous savez, si vous avez vraiment pardonné, vous arrivez... Des fois, les gens... Ils disent, je ne maudis plus. Ça veut dire, je ne m'intéresse pas. J'ai pardonné, mais c'est fini. Hein. Je ne m'intéresse plus à elle. C'est bon, on n'en parle plus. Pourtant, la Bible nous dit, vous ne maudissez pas, mais vous bénissez. Quand tu n'es plus capable de bénir, de souhaiter les bonnes choses dans la vie de ceux qui t'ont blessé le cœur, c'est qu'il y a une racine d'amertume. Des fois, nous, on a dit qu'on a pardonné. On ne maudit plus. C'est déjà pas mal, hein? Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il dit, tu bénis, bénis, bénis. Si tu n'es pas capable de bénir, c'est qu'il y a des racines d'amertume. Et cette racine d'amertume te fera priver quoi de quoi? De la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est là où il y a les miracles, les signes, les prodiges, parce que c'est un cadeau immérité, gratuit. On ne maudit pas, mais on retient la bénédiction. L'Écriture nous dit, ne maudit pas, mais aussi bénissez. Si je ne suis pas prêt à bénir à cause d'un souvenir douloureux, cela signifie que le pardon n'est pas en chemin. C'est que je retiens quelque chose, pas de liberté. Donc, ça montre quelque chose qui ne va pas en toi. Ok ? Plus je fais grâce, plus je libère la grâce. Amen ? Je ne prive de la grâce de Dieu en retenant à l'intérieur de moi des racines. J'aime, encore je relis ce texte du verset 12, chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine, voyez-vous, ça ne parle pas de l'amertume, de la racine. Ça veut dire que c'est tellement caché au fond de nos cœurs, on ne pense même pas qu'on a de l'amertume. Mais comment je vérifie, c'est quand je n'arrive pas à bénir, ou bien je retiens la bénédiction. Je ne la maudis plus, mais je retiens la bénédiction. Là, il y a une racine. Il faut que toute racine soit ôtée de nos cœurs. Alléluia! Ça, c'est une chose importante. La pédagogie de Dieu est magnifique. Quatrième, l'inquiétude. L'inquiétude. Si on est en bonne relation avec Dieu, on ne s'inquiète plus. Parce que c'est un commandement. C'est un domaine de bonne santé. L'inquiétude est la racine de notre indépendance de Dieu. Pourtant, Dieu nous a donné un commandement. Ne vous inquiétez de rien, c'est un ordre. Ce n'est pas un conseil. C'est un commandement. Ne vous inquiétez de rien. Dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain, car le lendemain s'inquiète pour lui-même. Chaque jour suffit sa peine. » L'inquiétude, c'est se projeter dans l'avenir, dans la crainte. Il faut vivre le présent. Hier, j'avais expliqué que Dieu donnait que trois choses dans la vie. Il donne quoi ? La vie. La vie, t'as pas choisi ton pays, t'as pas choisi ton couleur, ta couleur, t'as pas choisi ta nation, t'as pas choisi ta langue, tu n'as rien choisi. Tu n'as pas déposé un dossier dans le ciel en disant « je vais être dans telle famille, moi ». Eh ben non. Ce qui est malheureux, certains, pour quelque chose où ils sont ni auteurs, ni inventeurs, certains sont orgueilleux, d'autres sont complexés. Ça, il faut se repentir. Parce que ce que tu es est un cadeau de Dieu. C'est pour ça, hier j'avais partagé, donc vous pouvez prendre la cassette et écouter, le psaume 139, il dit au verset 14 et 17, « Je suis une créature merveilleuse, mon âme le reconnaît bien. Avant que je sois né, quand j'étais tissé dans le sein de ma mère, et tout a été écrit. » Ça veut dire, tu es programmé d'avance. Tu es un être programmé. Deuxième, j'avais dit, c'est le temps. Time, 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 time. Le temps. Le temps, c'est 24 heures, c'est pas plus. Dieu ne te donne pas une minute de plus. Dieu est juste dans sa sentence. Pour le riche, pour le pauvre, pour le grand, pour le petit, il est juste. Ça veut dire, il donne la vie, pareil. Il donne quoi? Le temps. Deuxième, le temps, c'est 24 heures. C'est pas une vie, c'est pas 50 ans, c'est pas 80 ans, c'est 24 heures. Parce que hier n'existe pas, demain n'est pas encore là. Ok. D'ailleurs, il y avait une chanson quand on était petit, on chantait ça. Le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit, merci pour le pain d'aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Même quand vous priez, la prière du Notre Père, donne-nous le pain de ce jour. Ce n'est pas marqué le pain de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, c'est de ce jour. Donc, soyez sages en ce jour. Appliquez vos cœurs à être droits dans vos attitudes, dans vos mobiles, dans vos intentions, Seigneur. Oh, cette mauvaise intention, voyez-vous, les pensées vous traversent. Qui ne lui traverse pas une mauvaise pensée? Tous. Qu'il soit pasteur, petit pasteur, grand pasteur, vieux pasteur, pareil. On est dans la même moule. Et pourtant, j'ai appris à trier ça. Mon intention, mes mobiles et toute mes attitudes intérieures. Ok, vérifiez ça. Troisième chose que Dieu nous donne s'appelle choix. Le choix. Le choix. Tu as le choix de pardonner. Tu as le choix d'aimer, tu as le choix d'haïr et d'être en colère, de mépriser, d'être trop sûr de soi. Tu as le choix. Dieu ne t'impose pas. Et ce qui t'arrive, c'est une histoire de choix. Ne touche pas le Seigneur. Amen. Tu aimes de bons gâteaux? Tu prends des kilos? Tu as des problèmes? Ne dis pas, Seigneur, mais pourquoi? Attends. Arrête de manger, quoi. Moi, souvent, je lui dis, j'aime les bons gâteaux, hein, Seigneur. Je prends la responsabilité. Je ne te responsabilise pas, Seigneur. Amen. Soyez honnête avec moi-même. Il aime la vérité dans le cœur. Amen. C'est tout ce qu'il veut. La vie chrétienne est simple. C'est nous qui avons compliqué tout. Très simple. Alors, l'inquiétude, c'est de l'idolâtrie. Alors, vis aujourd'hui. Si tu veux vaincre l'inquiétude, tu sais ce que tu dois faire? Apprends à vivre le jour. Apprends à vivre maintenant. Ici, ça, c'est la vie. Amen. Apprends à vivre maintenant. Je finis avec le cinquième. Je vous fais grâce, les sixièmes et septièmes. Le cinquième. comment connaître ta destinée? Qui es-tu devant Dieu? Quand tu penses à toi, comment tu te vois? Ta mission. C'est pourquoi on est sur la terre. Ce sont les bonnes questions à se poser. Souvent, les choses, tu trouves qui tu es déjà dans ta prière. Quelle est la chose qui te préoccupe quand tu pries? Est-ce que c'est le problème des gens ou c'est... Voilà, ce qui te préoccupe souvent, c'est quelque chose que Dieu a mis comme sensibilité au fond de toi. La mission pour laquelle tu es créé. Tout ce qui te prend du temps démontre ta mission. Tout ce qui prend... Dès qu'on parle de ce sujet, tu es, bam, tu as le feu, tu parles de ça, ah là là, tu discutes sur ça, ben ça démontre que Dieu a mis, il a mis comme dans le disque dur, ce programmation. C'est pour ça que tu parles que de ça. Dès qu'on parle de ça, ça t'intéresse, tu bouscules tout le monde, tu veux écouter ça. Et pourtant, ça n'intéresse personne. Et toi, tu juges les autres en disant « Ouais, c'est intéressant pourtant, comment ils ne s'intéressent pas ?» Mais c'est dans ton disque dur, arrête de juger les autres. Il y a des gens qui sont emballés pour Israël, d'autres qui sont emballés pour des pauvres, d'autres qui sont « Oh là là, c'est comment on appelle la verdure, là, les verts, comment on les appelle ?» Écologie, ils sont en feu quoi. Mais laisse-les. C'est bien qu'ils soient en feu. Parce que c'est marqué dans leur disque dur. Amen. Donc c'est comme ça que tu vérifies exactement quelle est la vision et l'appel de Dieu en toi. C'est quoi qui est bouillonne au fond de toi. Et tu vas être un chrétien en bonne santé. Et tu vas être la paix avec tout le monde. Parce que tu as commencé à être en paix avec toi-même. Tu t'es réconcilié avec toi-même. Tu as accepté ce que Dieu dit de toi. Amen. Et tu n'as plus de problème avec personne. Moi, je n'ai pas de problème avec personne. Dieu est témoin. Que son nom soit béni. C'est par sa grâce. Ce n'est pas parce que je suis meilleur, mais j'ai compris ces choses. C'est tout. Amen. On peut se lever? Allez, je vous martèle plus. On va faire ça. On va bénir. En ce jour de Pâques, le prix est payé. Amen. Un prix lourd a été payé par le roi. Seigneur, je te remets ma vie. Je t'aime. Je suis là pour toi. Je veux vérifier tous ces domaines. Le domaine spirituel, le domaine relationnel, le domaine de ma fragilité, le domaine de mon inquiétude, le domaine de mon appel, de la vision que tu as pour moi. Seigneur, voilà, je remets tout ça. Je veux commencer cette année différemment. Je veux avoir un autre regard de la vie. Peut-être toi qui se culpabilise, qui s'en veut, parce que tu dis, tu sais, avec Dieu, moi, j'arrive pas, c'est trop lourd. Eh bien, au moins, vérifie ta fragilité. La Bible nous dit, les fidèles et justes pour te pardonner. Amen. Fidèle et juste. Amen. Tu peux tout recommencer. À zéro. Amen. Donc, toi qui se culpabilise, toi qui s'en veut au fond de toi, toi qui dit « mais personne ne peut m'accepter avec ce que j'ai vu », eh bien, il est fidèle et juste. Il cherche seulement la vérité dans le cœur. C'est tout ce qu'il cherche. Il t'aime malgré toi. Hier, votre pasteur m'a donné un témoignage qui m'a bouleversé, ça concernait son grand-père. Et j'aimerais que tu le dises, s'il te plaît, cette histoire. Viens, s'il te plaît, Jean. Et ça m'a touché. Et je suis sûr que Dieu va vous toucher aussi. Parce que ça m'a touché, moi, quand il a partagé ça à moi.
Vous asseoir deux secondes.
Oui, pardon.
L'histoire du grand-père, c'est simplement que c'était un homme de Dieu extraordinaire qui a appris à connaître Jésus et à lire en lisant la Bible. Et malheureusement, il est tombé un moment pendant la guerre, il a chuté spirituellement, il a trompé sa femme, et il a quelque part abandonné la foi. Et c'est que Plus tard, il a eu une leucémie et il allait mourir. Et juste une nuit, il a un rêve. Et dans ce rêve, il se voit tout petit, en culotte courte, en train d'entrer dans la salle de classe. Et le maître d'école, surprise, dans son rêve, le maître d'école, c'est Jésus. Et Jésus pose des questions. Et Jésus ne pose des questions que sur la Bible. Et mon grand-père, qui était colporteur biblique, il savait la réponse, il avait appris la Bible par cœur. Donc il lève la main tout le temps, et moi. Alors Jésus lui dit, vas-y. Et il donne des réponses, et il a tout bon. Et vraiment, à ce moment-là, la cloche sonne. Donc les enfants sortent pour aller à la récréation. Et au moment où mon grand-père, en culotte courte, passe devant Jésus, Jésus l'arrête et lui dit, ah, j'ai à te parler. D'abord, je veux te féliciter, tu as répondu tout bien, c'est extraordinaire, mais j'ai une question pour toi. Pourquoi, alors que tu sais toutes ces choses, tu ne les as pas mis en pratique? Et là, dans son rêve, le grand-père, il revient à la réalité et voit tout ce qu'il avait raté dans sa vie. Et dans son rêve, En petit écolier, il fouille dans sa trousse et il sort un canif, il le donne à Jésus, puis il lui dit « Tue-moi, je ne mérite pas de vivre. » Jésus prend le canif, il referme la lame et puis il lui dit « Non, je te fais grâce, je te pardonne parce que je t'aime. » Et là, mon grand-père se réveille. Et il raconte cette histoire à sa femme, et il raconte cette histoire à son fils, qui était mon papa, et il dit, mais c'est merveilleux comme je suis en paix avec Dieu maintenant. Je sais que Jésus m'a pardonné, il m'a fait grâce, et je suis heureux. Et il est décédé le lendemain.
Amen.
Et cette histoire, dans notre famille, il y a beaucoup de gens, pratiquement personne ne la connaissait. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient des ressentiments par rapport au grand-père. Et quand j'ai pu le raconter, c'était à une cousinade, il y avait toute la famille qui était là, et ils étaient tous étonnés de voir comment Dieu avait pris soin de leur grand-père jusqu'au bout. Dieu appelle.
Amen. Merci Jean. Gloire à Dieu. Donc Dieu pardonne. Aujourd'hui, toi qui se culpabilises, dans ce jour où le prix a été lourd pour mon Jésus, ce jour de Pâques, ce Dieu te dit qu'il t'aime. Il ne cherche une seule chose, la vérité dans ton cœur. On peut se lever cette fois-ci. Amen. Pour de bon. Merci mon roi. On va fermer nos yeux et on va mettre nos mains sur nos cœurs et on va parler avec lui. Il est fidèle et juste. Il faut tout recommencer avec toi. Tu ne vas pas sortir les mains vides, je suis persuadé. Seigneur Jésus, merci pour ce jour merveilleux, pour le prix que tu as payé à la croix. Mais quel amour tu as eu à notre égard. L'immortel donnait sa vie pour des mortels. Tu n'as pas hésité un instant de donner ton sang pour que nous soyons immortels comme toi. Merci pour cet amour que tu as déversé en nos cœurs. Par la foi, nous recevons ce matin. Je bénis chacun de mes frères et sœurs. Je bénis et que ta grâce surabonde sur chacun d'entre nous. Je te remercie, Père. Je te remercie de ce que tu enlèves le poids, la pression, la culpabilité, l'accusation du diable. Sois libre, sois béni maintenant dans le nom de Jésus. Sois libre et sois béni maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, que ça soit une journée particulière pour toi, que tu ne sors pas les mains vides, que tu saches que tu es aimé, que tu es désiré, qu'il a un plan et un projet et un programme parfait en ta faveur. Merci Jésus de ce que tu enlèves le poids, la culpabilité, l'accusation du diable. Je te remercie pour ta victoire. Merci parce que tu bénis ta fille, le bébé. Seigneur, je te remercie pour ta main, pour mes bien-aimés, parce que tu peux tout recommencer. Béni sois-tu pour ce jour où on peut tout vérifier avec toi. Mais tu es fidèle et juste, tu aimes Seigneur. Tu es mort par amour. Sois béni mon roi. Tu es mort par amour mon roi. Je te remercie pour cette fidélité, pour cette affection, pour cet amour que tu as à l'égard de chacun d'entre nous. pour que nous soyons des instruments de bénédiction. Sois béni, mon bien-aimé. Merci, mon roi. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Merci, mon Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait et tu continues à faire. Alléluia. Et je brise toute accusation satanique et tout ce qui vient de l'enfer et tout ce qui agresse mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Et j'appelle la bénédiction du plus jeune au plus âgé, du premier au dernier. Rien ne manque, Père. Et que ce moment qui s'ouvre, qu'ils puissent vérifier comme cela, être sincères avec toi, que la vérité soit au fond de leur cœur. Seulement ce que tu cherches, c'est cette vérité. Je les bénis dans le nom de Jésus qui est Seigneur. Amen. Amen. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Soyez bénis. Merci de m'avoir écouté.